Vous écoutez le Libre Journal des Histoires de l'Art et du Patrimoine, dirigé par Marie-Thérèse Ablot, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 2 février 2021, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bienvenue à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons laisser momentanément l'évocation de la sculpture, de la peinture, enfin tout ce qui nous réunit d'habitude, tout ce que nous partageons ensemble. Mais vous allez voir, je crois que vous allez être certes surpris, mais passionnés aussi. Un livre récent des éditions Monet-Layo va nous donner l'occasion de cette émission. Le titre de ce livre, « La section technique de l'armée de terre », 225 ans à forger les armes de demain. Oui, aussi inattendu que cela puisse paraître tout d'abord, certaines armes de notre armée, au cours de notre histoire, méritent d'être considérées comme objets de notre patrimoine. Ne contribuent-elles pas, elles aussi, au prestige de la France et à notre liberté ? Monet-Layo, ravi de vous retrouver, les auditeurs de Radio Courtoisie aussi, mais ils doivent être un petit peu surpris quand même de l'autre côté de leur poste de radio, de leur casque. pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce beau livre, évidemment, hein, de plus, un livre guidé par un idéal, et c'est ce qui m'a plu et ce qui vous plaira, amis auditeurs. Comment s'est passée l'élaboration de ce livre ? Mais avant, je voudrais, amis auditeurs, vous présenter l'intervenant qui est là, notre invité, le colonel Jérôme Christ. Colonel, merci beaucoup d'être là parmi nous. Nous allons vraiment avoir besoin de vous parce que nous sommes dans un univers un peu différent, évidemment, quelque chose qui n'est pas très connu. Alors, tout à l'heure, vous allez laisser la place à l'historien de la section technique de l'armée de terre qui va nous faire le panorama de toute cette histoire de l'armement. Et puis, vous reviendrez en milieu d'émission pour nous parler d'aujourd'hui, des projets que vous avez. Et je dois dire que la néophyte que je suis a été ébahie, passionnée. Déjà un grand bravo, mais un grand bravo à Monet aussi. Alors comment cela s'est passé ? Comment vous vous êtes rencontrés ?
Alors nous sommes distribués et diffusés par Belles Lettres,
oui.
Diffusion, qui est dirigée par le colonel Hervé Dousseau. Et donc sa deuxième carrière l'a induit à revenir vers la première. Et je pense que la STAT, puisqu'on c'est le... L'acronyme de section technique de l'armée de terre avait besoin d'un éditeur et il est venu vers moi. J'en suis absolument ravie. C'était absolument passionnant. C'est tellement important aussi de se ressourcer en allant vers d'autres chercheurs, d'autres horizons. Pour nous, ça a été un grand enrichissement.
Oui, et pour le lecteur aussi. Alors, comment cela s'est passé ? Vous aviez un anniversaire que vous vouliez marquer.
Oui, tout à fait. Donc, 225 ans, en fait, on s'est rendu compte, en regardant le calendrier, tout simplement, que 2020 correspondait au 225e anniversaire de la création du comité de l'artillerie, qui a été créé le 7 mai 1795. Et puis, on s'est dit que l'occasion était belle à saisir pour célébrer le 225 ans à forger les armes de demain, qui est un peu le thème autour duquel on a axé. Alors, le livre est un des éléments qui devait animer l'année 2020, puisque autour de cet événement, on avait prévu également de faire une cérémonie parmi les Versaillais sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis, pour commémorer la date anniversaire, donc ça devait avoir lieu au mois de mai 2020. Et malheureusement, la crise sanitaire a un petit peu bousculé tout le calendrier, donc on a réalisé le livre et on a également réalisé un insigne qui nous inscrit dans l'histoire, puisqu'il officialise la filiation de la section technique de l'armée de terre avec l'arme de l'artillerie.
Très bien, donc tout à l'heure, sans doute, même sûrement, vous nous parlerez mieux de tout cela. Juste pour commencer, qu'est-ce que c'est plus exactement que la section technique de l'armée de terre ?
Alors, la section technique de l'armée de terre, c'est un petit régiment, un petit bataillon, dont la mission principale est de conduire les opérations d'armement pour l'armée de terre. Alors pour cela, elle est composée d'environ 650 hommes et femmes et elle conduit environ 400 opérations d'armement de toute nature. Hein. On va de la rangers, enfin de la chaussure, pardon, jusqu'au char de bataille, en passant par tous les systèmes de communication, la simulation, les systèmes aéroportés, les parachutes.
Ah oui, cela, on verra ça tout à l'heure, c'est fascinant.
C'est
et c'est,
vaste.
J'ose dire, de plus en plus vaste, en fait.
C'est de plus en plus vaste et surtout l'arrivée des nouvelles technologies complexifie un petit peu nos opérations, puisque désormais l'informatique est partout présente et qu'il faut faire face aux nouvelles menaces. Donc, comme
voilà.
La cybersécurité fait partie maintenant de nos domaines à prendre en compte. Donc oui, effectivement, c'est vaste puisque, comme je vous disais,
oui.
On va de l'équipement individuel du combattant au travers de sa tenue, jusque tous les engins blindés, toutes les armes. Voilà.
Alors, vous êtes basé au camp de Satory, près de Versailles.
Tout à fait,
voilà,
nous sommes sur le plateau de Satory.
On en reparlera tout à l'heure. Et simplement, avant que vous ne reveniez, colonel Christ, devons-nous comprendre que la marine, l'armée de l'air, a aussi sa section technique ?
Alors, ces deux armées ont des organisations un tout petit peu différentes, mais on retrouve des organismes effectivement qui ont des missions similaires. Je pense au Centre d'expertise aérienne militaire, qui est lui stationné à Mont-de-Marsan, donc qui s'occupe de tout ce qui est équipement pour l'aéronautique militaire et surtout l'armée de l'air et de l'espace. Et puis la marine a un centre également du côté de. Du côté de Toulon, me semble-t-il.
Voilà, oui, parce que nous avons parlé de Satory, mais si j'ai bien compris, il y a d'autres lieux aussi pour l'armée de terre. Non, tout est vraiment concentré dans le camp de Satory.
Alors, la section technique dispose de plusieurs emprises. Donc, la partie principale est à Satory avec son état-major et puis un certain nombre de groupements. On reviendra dessus peut-être un petit peu plus tard. Elle dispose également d'un groupement aéromobile qui est stationné à côté de Valence, qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui touche aux hélicoptères, d'un groupement aéroporté qui est, lui, stationné à côté de Toulouse, au plus près des troupes aéroportées de la 11e brigade parachutiste, notamment. Et puis, on a des détachements permanents à Saumur, pour faire de la simulation, du côté de Mutzig également, pour tout ce qui est guerre électronique. Et on a des emprises sur le camp de Mourmelon, en fait, des polygones qui nous permettent de réaliser des essais, donc des champs de tir explosifs.
Ça, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, donc nous verrons cela tout à l'heure. Pour le moment, nous allons nous plonger dans l'histoire. Alors, je vous dis à tout à l'heure, Colonel Christ et Monel, à tout à l'heure aussi. Sur Radio Courtoisie, aujourd'hui, nous évoquons une forme un peu inattendue du patrimoine, notre armement, notre armée. Donc, nous évoquons la section technique de l'armée de terre, la STAT, qui fête ses 225 ans et que le livre de Monel Ayot célèbre. Donc, son titre, 225 ans à forger les armes de demain. Alors, j'accueille Jean Bénèche, qui est historien. Monsieur, bienvenue au micro de Radio Courtoisie. Bonjour. Et expliquez-nous d'abord comment vous êtes entré en scène, si je puis dire, pour l'élaboration de ce livre.
Bonjour, ben c'est un plaisir d'être présent ici aujourd'hui. Alors, je suis historien de formation. Je suis ce qu'on peut dire un pur produit de l'université française.
Mais c'est très bien.
J'ai fait une licence d'histoire, puis un master d'histoire spécialisé sur l'histoire militaire en particulier, dont un mémoire de fin d'études qui portait sur le général Pexens, un officier d'artillerie qui était technicien et qui a développé une nouvelle artillerie explosive au 19e siècle. J'ai travaillé un moment au service historique de la défense, puis, par des connaissances, j'ai appris que la section technique de l'armée de terre recherchait un historien pour, en lien justement avec les 225 ans, pour écrire leur histoire. Donc on va dire que je suis entré en scène à ce moment-là, engagé en tant que civil. J'ai fait mes recherches au service historique de la défense, compilé les données, puis j'ai commencé à écrire le livre.
Voilà, alors nous allons essayer de survoler, c'est un peu ambitieux, mais nous allons tâcher de donner aux auditeurs un peu un aperçu de l'histoire de l'armement, de l'artillerie. Alors, je dois dire que votre intervention dans le livre est particulièrement passionnante. La première chose que j'ai trouvée intéressante, mais vous me direz s'il faut dire des choses avant, c'est que l'éternel problème, c'est le dialogue, ou plutôt la confrontation entre la protection et l'agression, entre le boulet et la cuirasse.
Oui.
Mais il faut que nous disions peut-être quelques phrases avant sur les armes, mais nous avons peu de documents, j'imagine, et nous allons galoper plus rapidement vers le Moyen-Âge.
Oui, tout à fait. La question aussi est liée à l'État français, parce que la STAT est rattachée, de fait, aux armes de la France. Donc en fait, nous avons, je considère que dans l'histoire militaire, il y a trois grandes révolutions. La première révolution est, qui a lieu vers moins 3500 avant Jésus-Christ, c'est la domestication du cheval. C'est la plus grande avancée qu'ait connue l'humanité, l'apparition des peuples nomades, et qui, notamment, beaucoup de peuples ont été marqués par la domestication du cheval. Plus de mobilité, de rapidité, donc beaucoup plus de manœuvres. La deuxième révolution apparaît donc, comme vous l'avez dit, au Moyen-Âge, avec l'apparition de la poudre, notamment en Europe.
Voilà, oui, on va parler de cela tout de suite. Et la troisième étape ?
Et la troisième étape, c'est celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est en fait la numérisation.
Et oui, c'est ce que disait à l'instant le colonel Christ, et il nous parlera de tout cela tout à l'heure. Alors, le Moyen-Âge, ai-je raison surtout ? N'hésitez pas, bien sûr, à me dire, Jean Bénèche, si j'oublie certains éléments et si je fais des erreurs, bien sûr. Cette arme savante, je ne sais pas de quand date cette expression, l'arme savante, elle s'illustre surtout sous Charles VII, ai-je raison ? Et j'ai été très intéressée d'apprendre que c'est grâce à elle, finalement, que nous avons chassé les Anglais.
Oui, tout à fait. Alors, si l'arme à feu est déjà apparue quelques années auparavant, donc il y a la bataille de Crécy, où il y apparaît déjà quelques armes à poudre, mais elles ont un impact très, très minime, en fait, sur l'issue des batailles du début de la guerre de Cent Ans. Finalement, c'est vraiment la rationalisation qui a lieu à partir du règne de Charles VII, la rationalisation de l'artillerie, son organisation, notamment par les frères Bureau, Jean et Gaspard.
Oui, qui sont ces deux personnes ? C'est absolument étonnant, parce qu'ils n'avaient pas reçu d'enseignement véritable, ça n'était pas prévu à l'époque.
Alors, le père des frères Bureau était un artisan qui était spécialisé justement dans la fabrication du fer et de la fonte et de l'acier. Enfin, pas de l'acier pour l'époque, excusez-moi. Il a donc pu payer des cours à ses enfants. Et Jean Bureau a fait des études financières, enfin financières pour l'époque. Donc c'est de par ses compétences, il a réussi à s'élever socialement et à se rapprocher du roi Charles VII. Toujours dans cette période en fait de creux politique où il cherchait beaucoup de support et en fait Jean Bureau lui était d'un soutien financier très fort. Donc il l'a accompagné lors de la remontée des armées françaises. Et le frère de Jean Bureau, Gaspard, lui, a repris l'industrie de son père. Et c'est par ce biais, c'est par le biais du frère Jean, qu'il a intronisé Gaspard et qu'il a permis aux armées françaises de se moderniser par l'artillerie.
Alors, ce qui est passionnant aussi, c'est qu'il y a des conséquences qu'on ne soupçonne pas. C'est qu'en fait, est-ce que je vais trop vite, mais cette artillerie qui va se développer, comme elle réclame un budget, elle ne va pouvoir être ordonnée que par le roi, et c'est de cette façon qu'on va peu à peu laisser la féodalité, en fait. Il n'y aura plus qu'un roi, car un seigneur ne peut absolument pas se faire fabriquer toutes ses armes. Donc déjà, la société change à cause de cela, et puis quelque chose de moins drôle, la fiscalité.
Oui, tout à fait, le matraquage fiscal date d'il y a longtemps. Alors, si en fait, les tentatives centralisatrices du Royaume de France n'ont pas remonté à beaucoup plus lointain, on peut faire monter à beaucoup plus longtemps, Philippe le Bel, Philippe
Auguste... Oui, il avait déjà, bien sûr, instauré...
En fait, le noyau de l'armée moderne, de l'armée permanente, apparaît réellement justement avec Charles VII et l'imposition fiscale permanente. C'est-à-dire qu'avant le roi devait faire appel aux états généraux, désormais la taille, elle est automatiquement remise d'année en année. Donc ce sont donc deux lois qui vont passer, ce sont les petites, qu'on appelle la petite et la grande ordonnance, qui vont permettre de lever l'embryon de ce que sera l'armée française.
Et nous sommes alors là avant la victoire décisive de Castillon.
Tout à fait.
Victoire qui prouve la nécessité et l'importance de cet armement.
Mmh, tout à fait. Cette bataille défensive a forcé les Anglais en fait à attaquer un fort français que les Français avaient eu le temps de fortifier avec leur artillerie. Et les Anglais ont envoyé leurs archers en première ligne.
Oui, ça c'est la grande arme à l'époque. Et Anglais. Eux ne connaissent pas l'artillerie.
C'est-à-dire que, comme beaucoup d'armées qui sont victorieuses, elles tendent à se reposer sur leur laurier, vous voyez.
Oui.
Et en fait, ils ont cru que le longbow britannique pouvait encore permettre de gagner les batailles contre les Français. Et là, malheureusement, ils se sont frottés à la poudre.
Enfin, malheureusement pour eux, oui,
malheureusement
voilà.
Heureusement pour nous, on va dire. Ils se sont frottés à la poudre de l'artillerie française et ça a sonné le glas définitif des prétentions anglaises qui dataient des Plantagenets. Hein.
Donc, absolument. On rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, on est en 1453. Hein, voilà, parce que c'est quand même une grande date pour nous. Alors, moi, je voudrais savoir, cette poudre, alors, on va tâcher de faire notre palmarès de tous ces objets patrimoine, cette poudre, elle nous vient d'ailleurs.
Oui. Alors, elle est venue...
Et comment?
Alors, elle est venue de Chine, tout d'abord. Les Chinois s'en servaient comme feu d'artifice, mais aussi pour faire peur à leur adversaire. Donc, c'était plutôt des sortes de gros pétards. Et en fait, par les contacts commerciaux qui se font par la route de la soie, elle a commencé à arriver à partir du 12e siècle. Elle a commencé à arriver au Moyen-Orient, puis après, par les croisades aussi, elle a été ramenée en Europe. Les Européens ont mis du temps, ont été assez rapides, parce qu'en à peine 100 ans, ils ont bien compris que la poudre avait un intérêt militaire.
Oui, plus que pour les feux d'artifice.
Plus
oui.
que pour les feux d'artifice. Parce qu'en fait, ça permettait, comme on le sait bien, la féodalité, l'époque féodale en Europe est marquée par l'apparition d'une multitude de châteaux censés protéger le fief du seigneur. Il n'était pas rare, en effet, qu'un seigneur décide de se rebeller contre la tutelle de son suzerain, et pour ce faire, il avait juste à se retirer dans son château et attendre. Finalement, pour prendre le château, il fallait que le seigneur prenne 5 soldats de plus par défenseur. Donc en effet, c'était très difficile de mater une rébellion nobiliaire. Et en fait, l'artillerie, très rapidement, est apparue comme étant la solution en fait, trouvée pour les suzerains qui pouvaient se la payer. Donc en fait, les personnes les plus riches, pour en fait mettre à bas ces fortifications de type féodal.
Oui, c'est ce que l'on disait oui, tout à l'heure. Oui, là, il y a vraiment un basculement dans la société.
Tout à fait. L'artillerie accompagne le basculement de l'âge féodal vers l'ère plus... et annonce en fait la Renaissance, l'ère plus classique, et aussi les guerres qui auront lieu sous François Ier avec des...
Oui, alors, vous dites, cela aussi c'est intéressant, que pendant quelques temps, si j'ai bien compris, les deux formules vont rester parallèles. Tout ce qui est appareil à poudre, et puis les vieilles catapultes, etc. Ça reste parallèle pendant un moment.
Oui, les deux coexistent en effet. Les deux coexistent parce que en fait, c'est de la chimie, l'artillerie, la poudre, le tirage de poudre, ça reste de la chimie. Et en fait, on n'arrive pas encore au balbutiement de l'artillerie en Europe à trouver les bonnes compositions pour avoir les meilleurs effets. De plus, on utilise un alliage de fer et de fonte en fait, qui est très fragile. Et en fait, finalement, pendant un moment, trébuchets, mangonneaux, catapultes, Scorpion reste davantage plus fiable que l'artillerie.
Oui, puis était connu. Voilà, par les hommes. Donc, ils devaient le manipuler. Parce qu'il fallait aussi un peu former les hommes pour...
Oui. Alors, justement, c'est là qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'arme, on va dire que c'est l'arme chimique, l'artillerie, et l'arme mécanique, c'est tout ce qui est mangonneau-catapulte.
Mangonneau, c'est un peu une catapulte,
oui,
hein, pour les
le
auditeurs
terme
de Radio Courtoisie. Oui.
Une catapulte tire une pierre, alors qu'un mangonneau, on peut en tirer plusieurs.
Tire quelque chose de plus gros.
Oui, on tire plusieurs pierres, en fait.
D'accord, c'est plusieurs pierres, oui.
Et mais c'est à peu près pareil, oui, c'est le même système de tension. En fait, l'artillerie mécanique est beaucoup plus difficile d'emploi. Elle requiert des personnels très qualifiés et en plus, il faut les monter. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est très dur à transporter. Donc, pour les opérations militaires, ça prend du temps. Il faut justement que l'ennemi ne bouge pas si on veut pouvoir vraiment les utiliser. C'est pour ça que sur le champ de bataille, c'est une rencontre fortuite entre deux armées, finalement. Eh bien, l'artillerie L'artillerie mécanique est très peu utilisée. C'est surtout une artillerie contre les sièges, pour le siège, je veux dire. Et en fait, l'artillerie chimique, à contrario, et ça qui est intéressant, finalement, elle devient moins chère que l'artillerie mécanique. Parce que, de un, la formation des hommes qui vont l'employer est beaucoup moins longue. C'est beaucoup plus facile, en fait, à utiliser. Et deuxièmement, avec le perfectionnement des techniques de moulage et de fonderie, l'artillerie va coûter beaucoup moins cher, en fait, à produire.
Eh oui. Alors, passons à la Renaissance, puisque nous avons dit qu'hélas, nous allons balayer un peu rapidement le temps. Y a-t-il des nouveautés particulières ou c'est le prolongement du Moyen-Âge ? On se perfectionne, j'imagine.
Oui. Alors, vous avez rappelé bien à propos au début de l'émission qu'il y a un effet cuirasse. Il y a un effet cuirasse et boulet, en quelque sorte.
Agression, oui, oui, ça peut être une balle. Oui.
Attaque-défense, et en fait, pour s'adapter à l'artillerie, va être mis en place un nouveau système de tracé à l'italienne, qu'on dit tracé à l'italienne. Donc c'est en forme de... C'est des murs qui sont abaissés et qui sont remplis de remblais de terre. Et en fait, dessus, l'artillerie, en fait, qui marchait très bien contre les murs féodaux, cesse d'être aussi efficiente. Donc en fait, on est obligé de nouveau adapter l'artillerie. C'est à partir de ce moment-là aussi que vont apparaître les premiers mortiers, par exemple, pour tirer en cloche et tirer directement à l'intérieur des villes. Également, l'artillerie va se perfectionner avec l'apparition, mais c'est peu plus tardif, mais rapidement, l'alliage qui est fait à partir du fer est remplacé par l'alliage de bronze. Beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup moins coûteux.
Peut-être plus solide.
Et aussi plus solide, bien sûr.
Oui.
Et aussi plus solide, jusqu'à l'apparition plus tard en fait, de la fonte de fer et de l'acier.
Mais bien sûr.
Je m'avance.
Et alors, oui, je galope peut-être. Alors, je suis déjà donc, au XVIIe siècle avec Louis XIV et le bronze me fait penser au canon. Et j'ai trouvé amusant, si je puis dire, mais il y a une sorte de devise sur les canons de Louis XIV.
Oui, tout à fait. La devise se dit en italien. Ultima ratio regum, donc l'ultime argument des rois.
c'est le canon. Alors là, je vais peut-être vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais est-ce que toutes ces armes, je pense particulièrement à ces gros canons, ils sont conçus pour être efficaces, pas du tout pour être beaux, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'ils soient beaux pour être efficaces?
Alors, c'est toujours... très étonnant, parce que quand on parle de l'art de la guerre et de l'art des techniques guerrières, c'est vrai que la guerre est quelque chose de plutôt sale. D'ailleurs, beaucoup d'historiens aujourd'hui, d'historiens militaires, à l'image de John Keegan, un Britannique, tendent à retranscrire telle qu'elle doit être vraiment la guerre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les militaires, les dirigeants ont toujours voulu qu'il y ait la guerre et les outils de la guerre aient une certaine esthétique. Et l'artillerie du roi de France, notamment du roi Louis XIV, mais même de l'artillerie du roi François Ier, on peut considérer qu'en soi, ce sont presque des œuvres d'art.
Mais oui, c'est ça, c'est un peu étonnant.
Il suffit de se rendre dans la cour des Invalides et d'observer l'ensemble de l'artillerie présente. Donc il y a à la fois des pièces françaises, mais aussi des pièces étrangères qui ont été capturées lors des moult batailles de l'histoire française. Eh bien, elles sont presque toutes... en tout cas pour l'époque classique, jusqu'à la Révolution, toutes décorées, soit du blason du possédant, mais aussi de certaines inscriptions qui sont mises dessus. Parfois, ce sont des inscriptions qui sont faites par le constructeur, pour laisser sa marque, mais parfois, ce sont aussi des traces qui sont laissées par les soldats, par les gens de guerre, en fait, qui marquent leur place à l'instant T sur... les
armes. Ça, c'est émouvant.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc, il y a les noms des servants, parfois. Il y a aussi les noms des gens qui ont pris l'arme. Donc, on a retrouvé, par exemple, sur un obusier français qui avait été capturé par les Russes en 1800, pendant la campagne de Russie, a été retrouvé une inscription russe dessus.
Donc, voilà. Oui, c'est étonnant. Est-ce que l'on peut dire, à ce moment-là, ou alors je suis trop orgueilleuse, que l'artillerie est alors en France la meilleure du monde?
Sous
Sous Louis XIV, Louis XV.
Alors, sous Louis XIV, c'est surtout à partir de Gribeauval.
Il faut que l'on parle de...
Que l'artillerie française Gribeauval va réellement entrer en lice et dépasser ses adversaires européens.
Alors, il faut que vous nous fassiez le portrait de cet homme, surtout que tout à l'heure, les auditeurs de Radio Courtoisie entendront encore ce nom, puisque c'est un des noms d'un endroit du camp de Satori. Alors, Gribeauval.
Gribeauval, alors déjà, c'est fait étonnant. Il a été baptisé plutôt le 4 décembre. Le 4 décembre, c'est la Sainte Barbe, c'est la patronne des artilleurs. Et quel meilleur auspice pour
le plus grand artilleur français
d'être né
ce jour-là. Mais alors, pourquoi Sainte Barbe ?
Sainte Barbe, parce que Sainte Barbe, parce que ça a été, c'est une sainte qui a connu son martyre en Grèce, l'époque romaine, et en fait son torsionnaire après son méfait a été foudroyé sur place.
Ah oui, d'accord.
En rapport avec l'artillerie qui foudroie.
Qui foudroie, d'accord. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il part faire ses études en Prusse.
Alors, non, Monsieur... il n'est pas vraiment parti faire ses études en Prusse. Il a été envoyé en tant qu'attaché militaire.
Ah oui, après. Oui, j'ai mal lu, d'accord. Oui,
Ce qui était de coutume à l'époque, et d'ailleurs c'est ce qui s'est fait encore pendant longtemps, ça a été d'envoyer les jeunes officiers prometteurs en tant qu'observateurs des armées étrangères. Et c'est là qu'il a justement été... qu'il a été au contact de l'artillerie prussienne. L'armée prussienne était, en fait, on peut considérer l'une des meilleures armées d'Europe sous le règne de Frédéric II le Grand. Et il est revenu donc en France avec de nouvelles idées qu'il a voulu appliquer, mais à ce moment-là, la guerre de 7 ans a débuté, et il a été envoyé dans les armées autrichiennes pour soutenir, justement, la guerre du côté autrichien contre les Prussiens. Donc il y a un jeu d'alliance qui s'est fait, Prussien-Anglais contre Français-Autrichien. D'ailleurs, à cet effet, à ce sujet, il a réussi à repousser et à tenir en échec le roi Frédéric II de Prusse.
Ce qui n'est pas rien, oui.
Ce qui n'est pas rien, en effet. D'ailleurs, Frédéric II le reconnaîtra. Mais de retour en France, il a le temps libre, il est mis en disposition et on lui donne le temps libre pour penser son nouveau système d'artillerie. Le système d'artillerie est censé remplacer celui du sieur de Vallières, qui a été utilisé pendant la guerre de 7 ans, et la guerre de 7 ans, son résultat a prouvé qu'il n'était que... a prouvé qu'en fait l'artillerie de Vallières n'était pas assez efficiente. Et en fait, ce que propose Gribeauval, c'est surtout d'alléger les pièces, de standardiser la fabrication dans toutes les fonderies de France, c'est-à-dire que les pièces deviendront interchangeables les unes avec les autres, et en même temps que ces pièces soient accompagnées de tout le matériel qui doit servir pour l'usage de l'artillerie. Donc, c'est-à-dire le train d'artillerie, le système de rechange, les compagnies de sapeurs,
oui, donc tout s'organise très rigoureusement là.
Tout à fait. Donc c'est vraiment l'apparition des grandes tables de construction d'artillerie qui apparaissent. Espèce de grands dessins sur lesquels sont dessinés au centimètre les pièces d'artillerie à l'échelle. Elles sont signées par le ministre de la guerre de l'époque. Et ensuite, ces dessins sont dupliqués et envoyés dans toutes les fonderies de France. Et toutes les fonderies doivent respecter ce plan d'ensemble.
Oui, là, c'est vraiment une industrialisation moderne. Donc là, on est dans les années 1780 à peu près.
On est à peu près dans les années plutôt même 1770.
1770,
voilà,
oui.
C'est vraiment l'apparition de la standardisation à grande échelle de l'armement français.
Oui, parce que Louis XVI va le nommer premier inspecteur de l'artillerie en 1777. Oui.
C'est ça. Oui. Et encore avant, son système avait déjà été adopté, mais comme à la cour, il y avait aussi beaucoup d'anciens qui étaient partisans du système de Vallières, il y a eu une opposition qui s'est déroulée entre les deux parties, les modernes et les anciens. On appellera d'ailleurs la querelle des bleus et des rouges. Bleu parce que c'était les nouveaux uniformes, donc les partisans de Gribeauval, et rouge, les partisans du sieur de Vallières. Et en fait, pendant un moment, de Vallières revient en grâce. Donc de nouveau, on arrête la fabrication du système Gribeauval et on lui préfère le système de Vallières. Donc encore,
ça
continue. Et heureux, enfin, le sieur de Vallières décède. Et à ce moment-là, toute l'opposition cède et une bonne fois pour
toutes. Et c'est Gribeauval, oui, qui va mener tout cela.
Gribeauval l'emporte.
Alors, voici la révolution. Et là, l'idée peut-être que tout soit sur une seule tête ne convient pas aux révolutionnaires. Donc, on va créer un comité.
Tout à fait, c'est ça. Alors, Gribeauval décède en mai 1789, donc quelques mois avant la Révolution, mais les troubles sont déjà là, il y a déjà les états généraux. Et en fait, en 1790, on se rend bien compte qu'on ne peut pas laisser l'artillerie sans vraiment tête pensante. Et plutôt que de remplacer le général sieur de Gribeauval, on décide plutôt de faire une collégialité de tous les grands généraux de l'arme qui décideraient ensemble de la marche à suivre, et de la marche à suivre que ce soit tant du point de vue des campagnes qui vont être conduites et menées que du point de vue de la fabrication.
Alors ça, c'est donc la loi du 18 Floréal en 3, voilà. Donc ce qu'évoquait le colonel Christ tout à l'heure, donc 7 mai 1795.
Voilà.
Voilà, c'est là la date officielle qui fonde un peu ce comité d'artillerie. Qu'est-ce qu'il va s'en suivre ensuite? L'Empire va vite arriver. Que peut-on dire sur l'Empire? Est-ce qu'il y a une arme un peu emblématique de l'Empire?
Alors, l'Empire a été marqué par une guerre presque, par des guerres sans discontinuer, à part après la paix, la paix de Tilsit ou la paix d'Amiens. Finalement, c'est une guerre continue. Et en fait, plutôt que de rénover entièrement l'artillerie par un nouveau système, en pleine guerre, c'est pas très efficient. Il faut mieux conserver les acquis, quitte à moderniser certaines pièces en fait de la pièce d'artillerie ou certains composants, que de recréer de zéro une nouvelle artillerie. Donc en fait, ce qu'on a favorisé durant cette période, c'est plutôt améliorer le rendement de fabrication. Donc tant des pièces d'artillerie que des fusils d'infanterie. C'est pour ça que l'artillerie Gribeauval, comme le fusil réglementaire de l'armée française, le fusil modèle 1777, sont restés en service aussi longtemps. On a préféré conserver les armes et les améliorer le plus possible plutôt que de créer du désordre dans l'armée, dans l'organisation générale, dans l'approvisionnement, en sortant et en imposant une nouvelle arme.
Oui, quel est le nom de ce fusil? Cela pourrait être aussi un autre de nos objets patrimoine, alors.
C'est le fusil modèle 1777.
Pas d'autre. Ah ben oui, tout simplement. Tout c'est simplement la date que nous évoquions tout à l'heure.
Et d'ailleurs, il a aussi été développé par Gribeauval.
Oui, bien sûr.
Gribeauval.
Alors, Napoléon, sa position par rapport à ce comité
Pour le comité, là, ça a eu quelques affrontements, en fait.
Voilà, oui, je m'y attendais, c'est ma question.
Déjà, il y a vers la fin de l'Empire, à partir de 1813, la campagne d'Allemagne, l'empereur se plaint que l'artillerie ne soit pas aussi bien dirigée que peut l'être le génie. Une remontrance qui est envoyée directement au comité de l'artillerie. Ce dernier est donc obligé de s'adapter à la marche à suivre. Donc en fait, il va se diviser en trois sections. Une section de la défense qui est la défense des places fortes françaises, une section de l'approvisionnement et une section de la fabrication. Sur le modèle en fait du comité du génie. Et ces derniers vont donc développer, après la campagne d'Allemagne qui est un désastre, l'empereur reflue vers la France, a lieu la campagne de France, les alliés, les coalisés plutôt, entrent en France.
En France, oui.
Et les armes, toutes les pertes en armement qui ont occasionné la campagne de Russie puis la campagne d'Allemagne, il faut bien les remplacer. Et donc, le comité de l'artillerie fait ce qu'il peut, en fait, pour colmater ce qui manque.
Oui, parce qu'à la campagne de Russie, nous avons été obligés de laisser un nombre de matériel.
Oui, une dizaine de canons sont rentrés. Quelques dizaines de canons sont
seulement
rentrés.
Ah oui, voilà, c'est... Oui.
Ça a été catastrophique, vraiment.
Alors, parallèlement, je trouve aussi intéressant ce comité... a envie déjà de, une idée patrimoniale, puisqu'il a envie de créer un musée. Il y a un début de vouloir conserver des objets du passé.
Oui.
C'est assez étonnant.
Tout à fait. Alors, c'est inscrit dans la loi et dans le règlement. Et il deviendra le musée de l'artillerie. Donc, le comité est installé place Saint-Thomas d'Aquin.
Oui, dans le 7e arrondissement
de Paris.
Oui.
Dans les locaux qui sont maintenant utilisés par Sciences Po, pour ceux qui connaissent.
Oui, c'était un couvent un peu désaffecté, donc on a donné ces locaux.
Voilà, c'est ça. On a donné ce loco aux militaires et notamment à l'artillerie. Dans ces locaux seront installés donc le futur musée. Et en fait, ce musée est composé surtout des pièces, des modèles réduits. En fait, parce que lors de la fabrication de nouvelles pièces d'artillerie, à chaque fois, on fait des modèles réduits.
Une petite maquette, oui.
C'est ça. D'ailleurs, cette tradition perdure encore aujourd'hui. Ça permet de présenter au public, mais aussi aux autorités politiques.
Oui,
et
ce que sera l'objet, oui.
Exactement. Et en fait, ce musée donc était ouvert au public. Pendant la campagne de France en 1814, toutes les pièces seront déplacées en dehors de Paris, mises à l'abri. Et aujourd'hui, ces pièces en fait, sont le creuset, les premières pièces qui seront données au musée de l'artillerie des Invalides.
Oui. Alors, y a-t-il ensuite, oui, que pouvons-nous dire du 19e siècle qui s'avance? Je pense qu'il faut que nous parlions déjà de 1870, hélas. Et peut-être que là, il y a une constatation un peu amère. Nous ne sommes pas tout à fait au point.
Oui. Si l'armement d'infanterie est... plus qu'acceptable, il est même supérieur au fusil, à l'armement du fantassin allemand, le fusil Chassepot. Nous parlons aussi du fusil Chassepot. En revanche, l'artillerie est en mauvaise posture. Les armes sont encore en fonte de fer, elles se chargent par la bouche. Donc ça veut dire qu'elles sont lentes à transporter, longues à recharger, difficiles à pointer. Pendant ce temps-là, l'artillerie allemande est déjà en acier et à chargement par la culasse. Tout le contraire de l'artillerie française. Plus rapide, plus précise.
Oui. Et alors, nous nous mettrons donc à ces techniques le plus rapidement possible.
Voilà.
Mais cela explique grandement l'échec de 1870, oui.
En effet, c'est là d'où est sortie l'expression « il pleut comme à Gravelotte ».
Il pleut comme à Gravelotte, oui. Alors, ce comité va disparaître. Alors là, nous sommes au XXe siècle. Juste avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, alors j'ai noté deux armes emblématiques, ai-je raison? Il y avait le fameux fusil Lebel.
Mmh, tout à fait.
Et le canon 75.
Voilà, le fameux 75 qui a fait la fierté de l'armée française au début de la guerre. Ces deux armes sont censées donc remplacer le fusil Chassepot puis le fusil Gras, et le canon 75 remplacer toute l'artillerie du modèle de Banche. Le canon 75, il avait pour mission en fait de remplacer toute la gamme des canons dits de Banche, qui représentaient à peu près 5-6 canons différents.
Oui, alors vous prononcez le nom d'un colonel Banche,
oui,
c'est cela,
colonel
Banche,
de Banche,
hein,
c'est
oui,
ça.
Voilà, oui.
Et cette artillerie donc, est censée remplacer toute cette gamme et en fait faire des économies pour l'État. Et cette artillerie a de plus la particularité d'être munie d'un frein oléopneumatique, le premier du genre, qui permet en fait au canon de tirer très rapidement et de regagner après le tir sa position initiale, ce qui, en fait, ce qui nous permet de gagner du temps car nous ne sommes pas obligés de repointer l'arme pour de nouveau
garder
la précision.
Oui, à chaque fois, bien sûr. Alors ensuite, c'est donc l'entre-deux-guerres et arrive le second conflit mondial. Et là, je pense peut-être que, bon, bien sûr, c'est la nécessité des horaires, nous sommes allés un peu vite, mais là maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Ce sont les transmissions et ce sont aussi les avions.
Oui.
Qui commence, Alors, je pense que pour terminer, nous sommes allés vite, mais je recommande donc aux amis auditeurs de Radio Courtoisie ce livre vraiment intéressant, 225 ans à forger les armes de demain, donc aux éditions Monnet-Layot. Donc là, il faut quand même que nous parlions d'une belle page de la résistance, parce que au départ, la section technique, donc tous et toutes ces armes, vont être entretenues plus ou moins clandestinement, enfin au départ non, au grand jour de l'occupant, et puis après clandestinement, mais ça se termine mal.
Alors, non au grand jour de l'occupant, parce que toutes les expérimentations ont lieu en zone libre, jusqu'en 1942, donc en fait c'est l'armée de Vichy qui accepte, entièrement et porte le poids entièrement de faire des expérimentations pour ses équipements. Simplement, la différence, c'est qu'elle ne va pas donner la vraie, elle ne va pas donner aux autorités allemandes la vraie, le véritable objet de ces expérimentations. Par exemple,
oui, oui.
On dit qu'on va tester une simple grenade antipersonnelle, mais en fait, c'est une grenade à charge creuse, donc ça n'a
strictement rien. On fait des expériences quand même. Hein.
C'est ça.
Oui.
On va même tester des fusées à propergol liquide, donc en fait, un peu le des fusées françaises, en fait, qui seraient capables de porter une charge utile et de les transporter et de les envoyer à 100 km de distance.
Mais alors après, donc, tous ces hommes vont collaborer avec la résistance.
Tout à fait.
Et leur fournir des armes.
Ils vont leur fournir des armes. Ils vont participer à une opération de l'armée de Vichy qui visait, en fait, à récupérer l'entièreté du matériel des armées françaises en déroute en 1940 et de le cacher. Et en fait, le service, la section technique pendant la Seconde Guerre mondiale va cacher cet équipement, va en même temps transférer des plans par l'Afrique du Nord et aussi par les réseaux de résistance aux Alliés. Ils vont aussi faire du détournement de fonds de plusieurs millions. Ils vont faire passer des contrats fictifs pour récupérer des francs et les envoyer à la résistance, et en même temps, bien sûr, donner des armes aux unités clandestines de l'armée des ombres.
Voilà, et là, je pense qu'il faut dire qu'il y a énormément de gestes de bravoure, de destins brisés, mais...
Tout à fait.
Voilà, oui.
Plusieurs y laisseront la vie, notamment le colonel Gentil, qui est l'instigateur, en fait, de ce réseau. Il sera arrêté en 1944 et... torturé et déporté au camp de Dora, en Allemagne. Il fera partie d'ailleurs des derniers convois qui partiront de France. Et là-bas, il sera connu comme l'homme de fer, en fait. Il sera nommé par ses condisciples de mauvaise fortune, l'homme de fer.
Oui. Alors ensuite, quelques mots pour conclure sur le conflit en Indochine. En Algérie, bon, en Indochine, nous avons des armes qui proviennent aussi des Américains ou...
Oui,
c'est un
ersatz d'équipement, en fait. Nous sommes équipés aussi bien d'armes américaines que d'armes anglaises et même d'armes allemandes. Par exemple,
oui.
des avions de transport qui sont utilisés, il y a aussi des avions allemands, des Junker 52. Et en fait, le but, c'est que la section technique qui est déployée aussi en Indochine puisse adapter ses équipements, les améliorer et pour en fait rendre service aux équipes qui sont sur le terrain.
Voilà, bien sûr, c'est sa vocation.
Toujours.
Et c'est aussi la même chose pour le conflit en Algérie.
Alors pour l'Indochine, le temps est passé, donc en fait, c'est un équipement plus français qui va servir là-bas.
Oui.
Et pour le coup, ce qui était utilisé, ce à quoi servait la section technique en Indochine, c'était ce qu'on appelle l'adaptation réactive. C'est-à-dire adapter l'équipement des forces sur le terrain pour les affrontements sur le théâtre d'opération. Et en fait, en Algérie, ils vont notamment se spécialiser. Il y a trois camps. Au camp du Crader, à Sidi Ferrouche, ils vont faire des expérimentations chimiques et aussi faire des tests d'armement d'infanterie tout à fait
voilà.
Classique.
Et alors c'est classique. Après que, bien sûr, mais alors là nous allons retrouver le colonel Christ, les choses seront un peu différentes et il y a surtout l'installation de cette section technique de l'armée de terre à Satory. Alors, merci infiniment Jean Bénèche pour ce panorama historique. Vous devez être un petit peu déçu de ne pas avoir pu en dire davantage parce que c'est extrêmement riche, mais on ne peut que renvoyer les auditeurs au livre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci.
Alors, bonjour,
on va
merci.
Écouter un peu de musique. Radio Courtoisie aujourd'hui, nous évoquons le livre passionnant publié aux éditions Monelaio, section technique de l'armée de terre, 225 ans à forger les armes de demain, dans la perspective que notre artillerie est aussi au service de la France, c'est une forme de patrimoine, et aussi au service de notre liberté. Nous, ce qui n'est pas rien, nous retrouvons le colonel Christ qui va nous évoquer donc aujourd'hui. Donc Jean Bénèche, évidemment, nous a raconté comment cette section technique, du moins le comité, s'était installé en plein Paris à Saint-Thomas d'Aquin. Alors comment va se passer le basculement à Satory et pourquoi Satory ?
Alors, pourquoi Satory ? Tout simplement parce que les différentes sections techniques d'armes, en particulier la section technique de l'artillerie, au début du XXe siècle, avaient déjà des polygones d'expérimentation. On retrouve d'ailleurs à Versailles la commission d'expérience de Versailles qui permettait de faire des essais. Donc, il y avait des champs de tir pour l'artillerie et pour les armes légères d'infanterie également. Sans oublier que sur le plateau, en fait, on a eu des grands événements qui ont été assez retentissants, puisque le vol du premier ravion de Clément Ader s'est fait sur le plateau de Satory devant des autorités militaires.
Et c'est donc la deuxième DB qui a libéré le camp de Satory, d'où la musique qui accompagnait votre retour, colonel Christ, au micro de Radio Courtoisie. Alors, peu à peu, je crois que cette section technique va quitter Saint-Thomas d'Aquin pour s'installer et, j'ose dire, s'épanouir bien davantage à Satory.
Tout à fait. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, elle avait quand même plusieurs implantations. Donc, Saint-Thomas d'Aquin, en fait, il y avait une partie des groupements et de l'état-major de la section technique de l'armée à l'époque. Mais on retrouvait des éléments au fort du Haut-Buc, on retrouvait à Aubervilliers. Enfin bon, il y a un petit peu dispersé partout autour de Paris. Et avec l'arrivée notamment et la création de nouvelles armes, je pense aux transmissions que vous citiez tout à l'heure, puisque le groupement de transmission apparaît juste après la Seconde Guerre mondiale.
En 66,
et il monte à 66,
oui.
C'est un des premiers à monter effectivement sur le plateau de Satory, et petit à petit, en fait, l'idée fait son chemin. Et au tournant des années 70, la décision est prise de regrouper en fait toutes les entités qui dépendent de la section technique de l'armée. Au sein d'une même unité qu'on appellera la section technique de l'armée de terre.
Voilà. Il faut dire que le site est tout à fait adapté à cela, bien situé aussi, pas loin de Paris, mais tout de même à l'écart. Combien y a-t-il, enfin nous n'allons pas nous lancer dans trop de chiffres, mais quelle est la surface de... Enfin, c'est plusieurs hectares. Donc...
Oh, c'est plusieurs dizaines d'hectares, oui, tout à fait. La section technique de l'armée de terre, elle toute seule, occupe le quartier Gribeauval.
Alors, on a évoqué, ce glorieux officier, oui.
Son implantation, là, sur place, fait 25 hectares. Mais en fait, elle est effectivement au milieu d'un environnement qui est tout à fait propice, puisqu'on retrouve... la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres. On retrouve le service de maintenance industrielle terrestre également. À côté, en bas, on retrouve le service interarmé des munitions. Et puis surtout, sur le plateau, il ne faut pas oublier que depuis les années 70, il y avait le groupement industriel de l'armement terrestre, le GIAT.
Tous les groupements, oui.
Et maintenant, on retrouve Nexter, qui est un des grands industriels de l'armement français, puisque c'est un des principaux fournisseurs de plateformes blindées. Et on retrouve également Arcus, qui est un autre industriel, qui d'ailleurs, ces deux industriels participent au groupement momentané d'entreprise qui nous fournissent les équipements Scorpion.
Combien d'hommes environ? Plusieurs centaines?
À Satorium?
Oui.
Je pense qu'on n'est pas loin de 2000, oui.
Voilà.
Il y a du monde. Il ne faut pas oublier également qu'il y a le groupement blindé de la gendarmerie nationale. Et puis, il y a une partie du GIGN.
Et voilà, oui. Et donc, c'est un foyer de têtes pensantes et très bien faites.
Tout à fait.
Oui, on les salue tous et on les remercie, bien sûr. Alors... En lisant le beau livre, l'a publié aux éditions Monet-Layo, j'apprends qu'il y a 8 groupements. Alors là, on a vraiment besoin de vous, colonel Christ. C'est donc ces 8 groupements. Comment cela se présente?
Alors, effectivement, la section technique de l'armée de terre, pour remplir sa mission, en fait, qui consiste à accompagner l'arrivée des équipements, des nouveaux équipements au sein de l'armée de terre, est structurée en groupements chaque groupement ayant une spécialité
qui est plutôt, passionnante, oui,
plutôt liée
qu'on
ne devine
pas, oui.
Qui est plutôt liée à une fonction opérationnelle. Donc on retrouve en fait les armes de mêlée, donc l'infanterie.
Alors,
et la cavalerie.
Alors oui, le premier groupement effectivement s'intitule, oui, armes de mêlée, facteurs humains. Alors que signifie, oui, armes de mêlée?
Alors les armes de mêlée, ce sont l'infanterie et la cavalerie. Donc c'est la spécialité, en fait c'est surtout le combat embarqué, le combat débarqué. Donc là on va retrouver principalement tout ce qui touche aux engins blindés de combat, à l'équipement du fantassin, donc son armement mais également son équipement de combat, ses protections balistiques, hein, gilet pare-balles, casque, les chaussures que citées,
tout l'armement
léger.
On peut entrer dans les détails parce que ça c'est assez passionnant. Comment est mis maintenant un soldat? Alors, il faut que je reste un petit peu cohérente, mais vous expérimentez le moindre vêtement.
Tout à fait.
Voilà, oui.
Tout à fait. Même les vêtements de combat, désormais, sont conduits comme des opérations d'armement. Et donc, elles font l'objet d'expressions de besoins qui décrivent en gros ce qu'on veut faire avec et comment. Et puis, lorsque les industriels fournissent les premières séries, on procède à des évaluations.
Vous testez tout cela.
Et on les teste en conditions proches du combat, voilà, dans les conditions où elles sont censées nous servir. Et une fois que les évaluations ont été conduites et que le constat que le matériel satisfait aux besoins qui a été exprimé, la section technique de l'armée de terre propose au chef d'état-major de l'armée de terre d'adopter ou de mettre en service ces équipements.
Alors, on va, bien sûr, on a beaucoup d'autres choses à dire, mais il y a donc le casque qui devient de plus en plus polyvalent, moi je dirais, non?
Il devient surtout, très, très technique. Hein. Effectivement, on est passé en quelques années
d'une simple protection à mille autres choses.
Tout à fait, du casque en acier. au casque en matériaux composites, qui est plus solide, qui protège mieux, mais qui est aussi support de tout un tas d'équipements individuels, des optiques, la radio, enfin bon bref.
Voilà, oui, parce que c'est cela qui suscite l'admiration, c'est que c'est très fragile ce que contient, bien, à part la tête du soldat bien sûr, mais tous ces appareils qui permettent de communiquer, ça réclame une protection vraiment optimale,
oui,
complexe.
Alors dans la conception de ces matériels, on fait en sorte qu'ils soient rustiques, c'est-à-dire qu'ils permettent au fantassin de l'utiliser dans les conditions de son utilisation prévue, c'est-à-dire que ces équipements sont censés quand même résister aux conditions climatiques et à l'usure ou à l'attrition liée aux conditions climatiques. Enfin bon, il y a tout ça, c'est évalué dans les conditions.
C'est passionnant, oui. Alors, un gilet de protection, ce gilet aussi, il est de plus en plus riche de... d'objets, il porte une multitude d'objets.
Tout à fait, c'est désormais un gilet de protection polyvalent. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle une structure modulaire qui porte des protections balistiques, mais qui permet aux combattants d'y agréger tout ce dont il a besoin. Donc ça peut être des poches porte-grenades, des systèmes pour mettre les chargeurs de son fusil, la radio, enfin tout un tas d'équipements dont il va avoir besoin.
Ah oui, alors il a un fusil d'assaut, le HK416, c'est ça ?
Tout à
c'est...
fait.
C'est celui qui, ou alors je vais trop vite, qui a remplacé le Lebel ?
Oh non, il succède au FAMAS.
Ah oui, le FAMAS. Oui.
Le Lebel, c'est le fusil de la Première Guerre mondiale.
Qui a arrêté, mais je pensais qu'il était resté assez longtemps.
Il est resté assez longtemps, on le retrouve en service jusqu'au milieu des années 30.
Oui, c'est ça. Et après,
il sera remplacé par le MAS 36 d'abord. Puis, l'armée de terre française sera équipée d'armement américain, le fusil Garand notamment. Ensuite, on verra le fusil semi-automatique, le FSA, modèle 49-56. Et au tournant des années 80, ce fusil est remplacé par le fusil d'assaut des manufactures d'armes de Saint-Étienne, plus connu sous le nom du FAMAS.
Voilà. Ah oui, ça je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ont entendu ce mot. Oui.
Voilà, et le FAMAS donc, entre en service au début des années 1980 et il y a encore une bonne partie de nos unités qui est équipée de ce fusil. Donc
oui,
la transition avec le HK se
oui,
fait
les gardiens mobiles, etc., on l'ont encore, me semble-t-il, oui.
On le retrouve pas uniquement dans l'armée de terre, effectivement, quelques unités de la gendarmerie, la marine, l'armée
de
l'air.
Qui l'ont encore, oui. Alors un pistolet aussi.
Oui, tout à
alors
fait.
Alors là, on pense à James Bond, mais ça, c'est pas tellement éloigné de James Bond, tout ça, surtout qu'il y a des jumelles à vision nocturne. Alors ça commence à être encore plus passionnant.
Oui, on rentre dans le combat, en fait, doit se faire par toutes les conditions, y compris éventuellement de nuit. Donc effectivement, pour permettre aux combattants à pied ou dans son véhicule, voire même aux pilotes d'hélicoptère de se déplacer de nuit, on développe des jumelles de vision nocturne.
Alors oui, donc là, et même ces jumelles évaluent le relief.
Certaines, oui, sont de plus en plus performantes, si bien la vision...
C'est fascinant pour les néophytes, ça.
Oui, c'est tout à fait étonnant, à fait étonnant, mais c'est la réalité.
Alors, il peut y avoir aussi un lance-missile et des roquettes.
Alors oui, là, en fait, on est dans une période de renouvellement complet des équipements de l'armée de terre. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis...
On en parlera, bien sûr,
Depuis 40 ans, c'est quelque chose de tout à fait étonnant et pour un grand défi pour l'armée de terre. Donc effectivement, là, on a parlé des équipements individuels du combattant, mais il n'y a pas que ça.
Bien sûr.
Il y a toute la trame missile-roquette qui est en pleine mutation, avec notamment l'arrivée dans les forces dans les derniers
Bien
mois
sûr.
Du missile moyenne portée.
Alors on va évoquer quand même les autres groupements. Il y a le groupement ergonomie, mais on en a un peu parlé d'une certaine façon.
Alors les facteurs humains, en fait, c'est un petit groupe au sein du groupement armes de mêlée facteurs humains. qui est destiné en fait à tester et à évaluer l'ergonomie, c'est-à-dire que l'objectif est d'adapter l'équipement au soldat.
Voilà, oui.
Donc on met le soldat au centre du problème et on s'assure que l'équipement qui lui est fourni, il va pouvoir l'utiliser dans les conditions optimales. Par tous les temps et en gardant
toutes ses facultés physiques et mentales. Oui.
Voilà, donc on s'intéresse à la masse des équipements, à la façon dont on va les utiliser.
Combien a-t-il sur le dos à peu près?
C'est variable, mais oui, ça peut être important, oui, plusieurs dizaines de kilos.
Oui, alors on évoquait les chaussures aussi, ce ne sont pas n'importe quelles chaussures, c'est très étudié, mais nous sommes obligés de passer. Il y a le groupement aéromobilité, donc là, nous parlons hélicoptère.
Tout à fait.
Quel est l'emblématique hélicoptère? Ça sera un autre objet de
actuellement,
patrimoine, d'une certaine façon.
Oui, mais l'hélicoptère d'attaque, l'hélicoptère Tigre.
C'est le Tigre, hein,
qui,
voilà.
Qui est rentré en service au début des années 2000. Et qui est désormais pleinement opérationnel et qui a servi sur tous les théâtres d'opération, que ce soit l'Afghanistan par le passé et actuellement.
Et il se passe beaucoup de choses dans cet hélicoptère. On peut même soigner quelqu'un, c'est ça.
Alors pas celui-ci.
L'hélicoptère
d'attaque, celui-ci, c'est un hélicoptère biplace,
très mobile,
donc il
vote
un peu.
Oui,
voilà, c'est vraiment
mais
sa mission.
Mais vous avez aussi.
On a l'hélicoptère également de manœuvre qui est le Caïman. Qui lui est destiné à transporter des combattants ou à procéder à des évacuations sanitaires, tout à fait.
Ouais.
C'est un hélicoptère qui a été adapté grâce au travail du groupement aéromobilité pour l'évacuation des patients contaminés, malades de Covid, lors de la première période de confinement au printemps dernier.
Alors, il y a aussi le groupement système de commandement et maîtrise de l'information, bien sûr.
Alors là,
essentiel.
Voilà, ce sont les héritiers directs du groupement transmission, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, eux, ils s'intéressent à tout ce qui est donc, système d'information. Donc, c'est des moyens informatiques qui permettent de remonter des situations tactiques
Ah oui,
unités.
Pas d'information, maintenant, voilà. C'est plus possible,
Et
bien
puis,
sûr.
Qui relient également toutes les unités. Donc, ils s'intéressent, eux, à tout ce qui touche aux communications radio, sur tous
Alors,
les types
oui,
de réseaux, du poste radio, au satellite.
Alors oui, il y a le groupement renseignement. Donc là, c'est le brouillage, c'est...
Alors, le renseignement, c'est tout ce qui consiste à mettre des capteurs. Donc, il y a effectivement tout l'appui électronique.
Et c'est là qu'il y a les fameux drones.
Il y a les drones, tout à fait. Donc, actuellement, la gamme de drones se densifie au sein de l'armée de terre. Hein, et les drones vont de toutes les tailles. Donc, ça va du nanodrone. Des toutes petites tailles, donc on a actuellement un drone qui fait une quinzaine de centimètres.
Ah, c'est fou, oui.
Jusqu'au drone patrouilleur, qui est le futur système de drone tactique qui sera déployé dans les années qui viennent et qui fait de mémoire une vingtaine de mètres d'envergure.
Ah oui, c'est complètement différent, oui, effectivement. Alors il y a le... Bon, je vais sûrement en oublier, hein, mais le groupement aéroporté. Alors là, c'est aussi tout ce qui concerne les parachutages.
Tout à fait.
Voilà. Et puis le groupement simulation. Et là, on commence à prononcer le mot numérisation.
Tout à fait. Alors le groupement simulation et numérisation de l'espace de bataille, lui, il a deux missions principales. Donc il s'intéresse à tout ce qui est simulation et développement de moyens de simulation. Donc ça va des systèmes qui permettent d'entraîner les PC aux systèmes de simulation qui permettent d'entraîner le combattant à son poste de conduite, par exemple sur un véhicule où les jeunes de maintenant connaissent bien ça puisque ils jouent leur propre rôle et dans un environnement simulé en trois dimensions, donc ils appuient sur...
Oui, en fait vous avez des endroits de simulation pour l'entraînement. Oui.
Tout à fait. Donc on en retrouve dans toutes les unités de l'armée de terre qui sont des éléments d'instruction collective. Et on retrouve aussi dans certains organismes de formation pour former les officiers, les sous-officiers, mais on retrouve également dans des centres d'entraînement spécialisés, comme le centre d'entraînement zone urbaine qui est à Sissonne, dans l'Aisne, ou le centre d'entraînement tactique qui, lui, est à Mailly, le camp dans la Marne.
Oui. Est-ce qu'il y aurait un autre groupement que nous n'aurions pas évoqué et qui...
Alors, on peut citer également le groupement mobilité et agencement de l'espace terrestre, qui, lui, va s'intéresser à tout ce qui est équipement pour le combat du génie, mais également à tous les combats du génie, tout ce qui est franchissement, mobilité, contre-mobilité, lutte contre les mines, tout ce qui est explosif. Il s'intéresse également aux véhicules, donc tout ce qui est camion, remorque.
Oui, bien sûr, il n'y a pas que
véhicules
les...
légers.
Oui.
Et puis, il s'intéresse également à tout ce qui touche aux équipements de défense NRBC, donc tout ce qui touche à la protection, à la décontamination, à la détection.
Oui, voilà. Ce sont des domaines que l'on ne suppose pas, et c'est vraiment le mérite de ce livre de rendre facile d'accès toute cette connaissance qu'il me semble nécessaire d'avoir quand même en tant que bon Français et bonne Française. Allez-y.
Il faut quand même citer le dernier groupement, qui est quand même celui dont nous sommes issus, c'est le groupement artillerie, qui va s'occuper, lui, de tous les systèmes d'artillerie, donc que ce soit les canons, la défense
solaire. Alors moi, je voulais justement vous demander le dernier char, j'allais dire à la mode, mais ça ne doit pas convenir. Parce que moi, je suis restée dans les AMX, mais... C'est ça date tout cela.
Oui, le char de bataille, le char de bataille de l'armée de terre française, c'est le char Leclerc.
Oui.
Voilà, qui a désormais un peu plus de 20 ans de service opérationnel et qui va connaître une rénovation importante.
Ah voilà, oui. Voilà. Mais il restera toujours sous ce nom.
On le garde sous le nom de Charles Leclerc, tout à fait. Et puis, il a son petit frère qui est l'AMX-10RC, qui est un char déjà ancien, puisque lui, il est en service depuis la fin des années 70, et qui va bientôt être remplacé, dans le cadre du programme Scorpion, par le Jaguar.
Voilà.
Un nouvel engin de reconnaissance.
C'est une bonne façon d'enchaîner pour parler de Scorpion. Alors, merci aux auditeurs qui sont très contents. Bon, parfait, merci. Alors, je ne sais pas si on me pardonnera, on ne peut pas répondre partout. Il y avait tout aussi la possibilité. Alors là, nous sommes au milieu du XXe siècle. On parle de lance. Je pense au bout d'un fusil et aussi de lance-grenade. Le 71 AS-46 a été un fusil de l'armée française dans les années 60 et après cette date. Bon, merci à tous les auditeurs qui interviennent. Alors, Scorpion, ça c'est vraiment étonnant, formidable. Qu'est-ce que Scorpion ? C'est...
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'armée de terre française connaît un renouvellement massif de ses équipements.
C'est une révolution, c'est presque la découverte de la poudre, si on se replonge dans le passé. C'est quand même révolutionnaire.
Alors, révolutionnaire, je ne sais pas, Scorpion, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est un programme, un gros programme qui est né au début des années 2000, donc qui a été pensé par l'état-major de l'armée de terre à cet horizon, et qui a été développé donc entre le début des années 2000 et maintenant, et qui voit arriver donc désormais les premières plateformes. Alors Scorpion, au départ, c'est un acronyme qui signifie synergie au contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation. Donc on voit apparaître des termes un peu nouveaux d'infovalorisation, et qui consiste au-delà du renouvellement des plateformes blindées, avec l'arrivée notamment du Griffon et du Jaguar que je citais tout à l'heure pour remplacer la famille des véhicules de l'avant blindé qui ont bientôt 40 ans.
Griffon aussi, c'est... Qu'est-ce que Griffon ? C'est un...
Alors, Griffon, c'est un véhicule blindé
d'environ
25 tonnes.
Ce sont deux véhicules.
Ce sont deux véhicules. Donc, on va voir arriver donc, le Griffon, bientôt le Jaguar, comme je disais, pour remplacer la MX-10 RC. On verra également arriver un autre véhicule blindé qui est le Serval, qui remplacera. Donc, ça, ce sont des blindés qui sont destinés à remplacer, donc, comme je disais, toute la famille des véhicules de l'avant blindé actuellement en service.
Et de telle sorte que le néophyte puisse comprendre qu'est-ce qui va être très différent par rapport à ceux du passé.
Alors, le combat Scorpion apporte ceci d'un peu moderne, on va rentrer dans l'ère du combat info-valorisé. Alors, qu'est-ce que c'est le combat info-valorisé ? Eh bien, en fait, apporter une supériorité tactique provoquée par la collecte de renseignements grâce à des capteurs, à rapidement faire converger les informations données par ces capteurs de façon à permettre d'accélérer tout ce qui est prise de décision et par là même l'action sur le terrain. Et le point supplémentaire qu'apporte l'info-valorisation, c'est aussi de mutualiser la protection entre les unités. Donc en fait, on fait circuler l'information rapidement.
Oui, moi, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est que Scorpion, c'est vraiment l'informatique sur le terrain et c'est la nouvelle façon de rassembler les hommes, parce qu'ils, grâce à cela, ils vont tous avoir les mêmes données agir ensemble plus efficacement.
Grâce à un système d'information unique, le système d'information du combat Scorpion, qui reliera toutes les unités depuis le groupe d'infanterie sur le terrain jusqu'au commandant du régiment dans son poste de commandement.
Oui, donc combien d'hommes peuvent être ainsi tous à l'unisson, si je puis dire?
Tous.
Tous, ça c'est extraordinaire.
Voilà, ils auront tous une situation tactique partagée, donc tous les échelons de commandement, je vous dis, jusqu'au niveau du chef de groupe ou du niveau de chef d'engin, saura où sont positionnés ses camarades à côté de lui, sans forcément les voir d'ailleurs, mais il aura l'information directement sur son système d'information.
Oui. Voilà. Alors, là, pour cela, lorsque l'on vous écoute, colonel Christ, on se dit, mais c'est vraiment une nouvelle phase pour l'armée française, là.
Tout à fait. Donc, c'est le système de combat du futur. Et il s'accompagne également d'un système de préparation opérationnelle, puisque avoir des engins pour se battre et des équipements, c'est bien, mais il faut aussi avoir les moyens de s'entraîner et de s'entraîner efficacement. Donc, il y a tout le système de préparation opérationnelle qui se développe autour de systèmes de simulateurs, donc des simulateurs notamment pour entraîner les tireurs sur les engins blindés. Donc, je pense notamment au Griffon, puisqu'il y aura un entraîneur de Tourello Scorpion.
Oui, oui, oui.
Les systèmes de, on a parlé des centres d'entraînement, spécialisés donc en zone urbaine ou le centre d'entraînement tactique tout à l'heure, qui disposeront de moyens d'entraîner plusieurs sous-groupements tactiques face à une force adverse grâce à des moyens de simulation. Là, c'est ce qu'on appelle de la simulation instrumentée, donc qui permettent aux combattants d'utiliser son équipement normal, équipé de simulateurs, et qui vont simuler les effets des armes et permettre de mener un combat tout à fait dans les conditions tout à fait normales.
Oui. Mais alors, y a-t-il du coup toujours les fameuses manœuvres à l'ancienne où la simulation est considérée comme suffisante ?
Ah bah oui, les manœuvres, de toute façon, la simulation est de plus en plus présente puisque il faut effectivement donner et nourrir les unités qui s'entraînent. Donc face à un ennemi simulé ou non d'ailleurs, mais donc on a divers moyens qui vont de la simulation constructive, ce qu'on appelle la simulation constructive. Donc c'est un peu le wargaming, c'est-à-dire ce qu'on faisait sur carte, mais avec des moyens beaucoup plus modernes, évidemment.
Oui, un peu différent quand même, oui.
La simulation instrumentée, je viens de vous en parler, donc c'est mettre un simulateur sur un fusil pour en rendre les effets, sans que ça tire des munitions réelles, évidemment. Et puis la simulation, la dernière, pardon, c'est la simulation virtuelle, voilà, qui permet aux gens d'être mis en situation sur les simulateurs. Bon, la simulation virtuelle, typiquement, c'est la cabine de simulation, c'est le simulateur de vol, pour faire simple.
Oui, voilà, bien sûr, oui. Mais alors donc, il faut quand même faire des manœuvres où on court sur le terrain ou aussi.
Ça, on continue, ça, c'est, ouais. On en fait, on continue d'en faire.
C'est ce qui fait que
dans les camps en France, ouais. Effectivement.
Alors pour oui, je me suis toujours posé aussi la question. Est-ce que vous ne craignez pas d'être espionné entre guillemets ou c'est pas une bonne question parce que
oh, espionner. Je ne sais pas répondre à cette question.
Bon.
Oui, sûrement. On suscite forcément l'intérêt
oui.
et la curiosité des autres, forcément.
Oui. Parce que tout de même, Satori, parfois, permet, enfin, pas en ce moment, mais permet des visiteurs, etc. Mais bon, tout cela doit être très contrôlé. J'avais noté aussi le système Périclès.
Ah. Alors justement pourquoi on a appelé notre livre 225 ans à forger les armes de demain, parce que effectivement il y a la notion de mise en place d'outils et de systèmes permettant de forger les armes. On voit bien que pour forger un canon, il faut de l'acier, il faut des marteaux, il faut voilà. En fait, la plateforme Périclès, c'est une plateforme qui permet d'interconnecter tous les systèmes d'information. Donc, en fait, dès qu'on reçoit une nouvelle version d'un système d'information, on peut la connecter dans un environnement réaliste à toutes les autres plateformes d'information sur cette plateforme. Donc, Périclès, en fait, c'est un outil qu'on a mis en place il y a maintenant 3 ans, je crois, au sein de la STAT, et qui permet effectivement de tester en grandeur nature les systèmes d'information
oui,
interconnectés entre eux.
Bon, pour optimiser, là, finir d'optimiser complètement, oui.
Tout à fait.
Oui, donc,
fait.
Périclès, ça fait partie aussi de Scorpion.
Ah bah, ça y contribue.
Ça y contribue, voilà, oui.
Sur la plateforme Périclès, nous évaluons et nous conduisons des évaluations, des expérimentations du système d'information du combat Scorpion, évidemment.
Oui.
Donc avec d'autres systèmes d'information, puisque la transition vers Scorpion ne va pas se faire en une seule fois, hein, elle va s'étaler sur plusieurs années. Et donc, en fait, on teste également l'interconnexion avec les systèmes anciens, de façon à s'assurer que deux unités qui ne seraient pas équipées tout de suite du système d'information Scorpion puissent quand même communiquer entre elles.
Mais alors, je pense que j'ai encore le temps de vous demander, colonel Christ, tous ces soldats sont maintenant des soldats qui sont allés qui ont fait des études poussées. Parce qu'il n'est pas facile d'utiliser tout ce que vous venez de nous décrire.
Alors, les hommes et les femmes qui servent à la section technique de l'armée de terre pour conduire les expérimentations, on retrouve 3 métiers principaux. On retrouve les officiers de programme, qui sont des officiers supérieurs, qui sont brevetés. Donc, en général, ils ont une formation d'ingénieur.
Super pointu, quand même, pour...
Oui, on peut le dire, tout à fait. Ces officiers de programme, eux, sont chargés de conduire les opérations d'armement. Donc, ils ont un certain nombre d'opérations d'armement qu'ils conduisent en liaison avec la direction générale de l'armement. Donc, ils ont affaire à des managers, à des architectes de systèmes. On a l'habitude de dire que ces officiers de programme sont l'officier de programme, c'est l'homme des choix. C'est lui qui va amener l'état-major à décider. C'est lui qui va conduire tout ce qui est faire proposer au chef d'état-major de l'armée de terre, une fois que son programme est prêt, proposer la mise en service, par exemple. Ensuite, on retrouve des officiers de marque, qui eux sont des experts opérationnels, qui sont les hommes des constats. Donc eux, c'est ceux qui sont chargés d'organiser et de conduire les évaluations.
Et alors, je vous presse un peu, pardon, et les troisièmes?
Et les troisièmes, ce sont nos sous-officiers expérimentateurs qui sont, eux, les premiers utilisateurs. Alors, tous ces gens, effectivement, sont formés, mais surtout, on s'appuie sur leur expérience professionnelle et opérationnelle.
Ouais, ça, c'est important.
Et ils sont des gens qui sont effectivement...
Et juste une minute, c'est pas beaucoup, mais votre insigne à la STAT, décrivez-la aux auditeurs quand même de Radio Courtoisie.
Alors l'insigne de la section technique de l'armée de terre, d'abord c'est un insigne qui est vieux, puisqu'il a été, homologué pour la première fois en 1946. Alors on y retrouve deux affûts de canon.
Qui serait de part et d'autre,
qui symbolise l'arme de l'artillerie et qui pourrait tout à fait être des affûts de canon Gribeauval.
Au centre, il y a une roue crénelée.
Alors, on retrouve deux roues crénelées qui représentent l'arme, enfin la mécanisation, l'arme blindée et les blindés.
Et il y a une grenade d'or.
Et la grenade, c'est pour symboliser l'infanterie, notamment. Voilà, donc on retrouve un petit peu les trois armes qui ont prévalu et qui ont
convergé pour faire la STAT.
Et qui ont été rejointes par bien d'autres armes après, puisqu'on a cité les transmissions, les aéroportées, les hélicoptères, le renseignement.
Alors, et la devise, être exact. Alors, pour être exact vis-à-vis de Benoît à la technique, il me reste juste quelques secondes pour vous remercier très fort, colonel Christ, de tout ce que vous nous avez dit, et un grand bravo à vous et à tous ceux qui vous entourent à Satory. Merci beaucoup à Benoît à la technique, à vous qui êtes restés à l'écoute. On se retrouve dans un mois. Au revoir.
Entendre le libre journal des histoires de l'art dirigé par Marie-Thérèse Ablot, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 2 février 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.